Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons parler du ciel aujourd'hui avec Denis, bonjour.
Bonjour, ravi de vous retrouver sur ce plateau.
Le ciel nous fait un petit peu défaut et il nous fait des cachotteries par ces temps de mauvais orages. Mais nous allons quand même voir ce qu'il y a au-delà des nuages avec tous ces astres qui sont autour de nous. On observe souvent les astres la nuit, c'est le plus commode pour tout un chacun, vu qu'on n'a pas tous sous la main les appareils. Pourquoi est-ce que les astres n'ont pas toujours la même couleur ?
D'une part, bon, c'est vrai qu'on n'est pas très chanceux en ce moment pour observer le firmament, et plus particulièrement les astres dans le cosmos. Je rappelle que les astres, ce ne sont pas que des étoiles, mais sont également des planètes, des galaxies, des nébuleuses, enfin toutes sortes de corps célestes qui sont situés à des distances plus ou moins éloignées. Et comme vous l'avez remarqué, hein, quand vous sortez par une belle nuit d'été ou d'hiver, hein, quelles que soient les saisons où le ciel est bien dégagé, vous avez remarqué que les corps célestes n'ont pas la même couleur, en effet.
Oui, et c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'ils doivent être habités vu que les lumières scintillent.
Oui, alors ça, c'est un effet, je dirais, d'optique. Hein. Si ça scintille, c'est grâce à l'atmosphère terrestre, hein, car le rayonnement qui provient justement de ces astres est perturbé justement par les différentes couches atmosphérique. Il y a des phénomènes qu'on appelle la réfraction de la lumière qui perturbe la trajectoire de la lumière sur son parcours. Et c'est pour ça qu'elles ont tendance à scintiller beaucoup plus juste au-dessus de l'horizon.
Oui, c'est vrai.
Et à fur et à mesure qu'on progresse vers le zénith, hein, le zénith qui est en fait le point, je dirais, virtuel qui est perpendiculaire à l'observateur, eh bien là, les astres scintillent beaucoup moins parce que les rayonnements subissent moins de perturbations. Oui. Mais évidemment, ça repose bien sûr sur les conditions météorologiques, donc le cas échéant.
Parce que quand ils sont au zénith, ils sont en principe très lumineux, très...
Enfin, ce n'est pas forcément très lumineux, mais doivent normalement scintiller moins.
Oui. Oui, c'est vrai. Vous parlez d'astres, moi je parle d'étoiles parce que pour moi, tout est étoile dans le ciel.
Et oui, il n'y a pas que les étoiles.
Oui,
hein, sinon, les planètes vont être particulièrement fâchées ainsi que les autres corps.
Non, je ne veux pas m'attirer leur foudre. On en a assez comme ça ces temps-ci.
Mais pour revenir à cette notion de couleur, eh bien là, vous avez fait les premières démarches scientifiques dans le domaine de l'astrophysique, parce qu'avant tout, c'est une science qui est basée sur l'observation. Donc si vous avez constaté déjà que les astres ont des couleurs ou des éclats différents, eh bien c'est un grand pas vers la connaissance de l'astrophysique. Hein. Mmh. En dehors de toutes les considérations mathématiques, ou sciences physiques, déjà le fait d'observer ces différences de couleurs et d'éclats, ça permet déjà de vous interroger. Mais pourquoi les astres ont des couleurs ou des éclats différents ?
Oui.
Alors justement, pour continuer sur la couleur, eh bien, vous prenez par exemple, histoire de faire preuve de pédagogie, si j'ose dire, hein, si vous prenez par exemple un morceau de fer, hein, le morceau de fer, vous l'exposez à une flamme. Que se passe-t-il ? Eh bien, votre morceau de fer, il va rougir.
Oui.
Et la couleur que vous voyez, c'est du rouge, c'est un rayonnement rouge qui parvient à nos yeux. Et quand vous augmentez la température, que se passe-t-il ? Eh bien, cette couleur, eh bien, elle va évoluer progressivement vers le bleu. Hein. On part, je veux dire, de la couleur rouge, d'accord ? Et puis, progressivement, ben, cette couleur va passer au jaune, progressivement, et puis va évoluer vers cette fameuse couleur bleue. Déjà, il y a une corrélation entre la couleur de rayonnement que nous percevons,
oui,
et la température. J'ai pris un exemple très simple,
oui,
avec un morceau de métal.
Qui est visuel pour tout un chacun.
Voilà. Mais ceci, ça s'applique également aux astres. Quand vous voyez des étoiles de différentes couleurs, notamment des étoiles rouges, d'accord ?
Oui, il y a des rouges et surtout le bleu, en fait.
Oui, tout à fait. Eh bien, il y a une corrélation justement entre la température et la lumière qui est émise par l'étoile. Une étoile qui émet un rayonnement rouge sera plus froide, relativement plus froide, qu'une étoile qui est bleue. C'est pour ça qu'on peut déjà dire qu'une étoile, quand vous voyez une étoile bleue dans le ciel, eh bien, c'est une étoile qui est beaucoup plus chaude qu'une étoile jaune,
oui,
et beaucoup plus chaude donc qu'une étoile rouge.
Mais il n'y a pas de vie.
Ah non, il n'y a pas de vie sur une étoile vu les températures qui sont présentes. Hein,
oui.
Parce que les températures sur une étoile, ça varie, on va dire, grosso modo, de 2000 à plus de 50 000 degrés,
oui,
donc au niveau de la surface.
D'accord.
Donc c'est relativement considérable. Hein.
Ouais. Est-ce que la vie pourrait se développer plus sur une étoile froide que chaude ?
Non, là, ce n'est pas possible,
oui,
hein, parce qu'à partir d'une certaine température, malheureusement, la matière cellulaire organique est complètement
détruite.
Hein.
Oui, je comprends bien. Est-ce que ce sont plutôt les astres qui brillent de différentes couleurs ou ce sont aussi les étoiles ou les deux ?
Ce sont essentiellement les étoiles et puis les planètes et les autres corps célestes qui ont leur propre donc rayonnement.
Mmh.
Il y a une chose qui a de très importante et c'est là où il s'agit de bien distinguer donc une planète d'une étoile. Une planète ne fait que réfléchir la lumière d'une étoile à proximité. Donc c'est pour ça que nous pouvons voir les planètes dans le ciel, parce qu'elles ne font que réfléchir la lumière, notamment du Soleil, hein,
oui,
qui est situé dans notre environnement. Mais chaque planète a des caractéristiques qui lui sont intrinsèques, hein, propres. Hein. Par exemple, si vous regardez en ce moment la planète Mars à l'horizon, eh bien, c'est une planète qui est très très rouge.
Hein. Oui, c'est vrai.
Voilà, très très rouge. Mais ça, c'est lié en fait aux caractéristiques de sa surface, en fait, hein, qui est constituée essentiellement de matériaux, de minéraux, d'oxyde de fer. Et c'est cet oxyde de fer, en fait, qui a cette couleur rouille. Et ça, ça lui permet de réfléchir en fait la lumière du soleil, mais avec un aspect qui sera beaucoup plus rougeâtre.
Et ça, c'est la distance qui nous donne donc cette couleur rouge que l'on voit.
Alors, ce n'est pas la distance, hein, c'est propre aux caractéristiques même de la planète.
Oui.
Après, par rapport à l'éclat de la planète vue dans le ciel, ça sera bien sûr fonction de sa distance par rapport à la Terre.
Oui, parce que des fois, on la voit bien blanche.
Oui, après il y a toujours ce problème aussi lié à l'atmosphère
oui,
terrestre. Hein. On disait tout à l'heure que quand les astres sont situés au niveau de l'horizon, le rayonnement est beaucoup plus, je dirais, perturbé. Et là, forcément, il y aura des impacts sur également la couleur de l'astre.
Hein. Oui.
Quand vous regardez, par exemple, le lever ou le coucher de soleil, il est beaucoup plus rougeâtre à
oui,
l'horizon. Donc ça, c'est grâce à ces phénomènes d'optique liés à la réfraction de la lumière.
Oui.
Et cette couleur rougeâtre aura tendance à diminuer à fur et à mesure que l'astre culminera dans le ciel.
D'accord. Est-ce que la Lune rentre dans cette catégorie d'astres qui ont des couleurs ou pas ?
Alors ça, c'est une question très intéressante. Hein. Vous remarquerez que quand la Lune, par exemple, est en phase pleine,
oui,
elle a tendance à émettre énormément de rayonnement.
Oui. Hein.
C'est lié essentiellement à son matériau qui est situé au niveau de la surface, hein, qu'on appelle de la régolithe. Alors la régolithe, c'est en fait de la poussière météorique, parce qu'à une époque donnée, la Lune continue à se faire bombarder par des météorites.
Oui.
Et ça laisse bien sûr beaucoup de poussière. Et cette poussière, eh bien, elle est soumise aux rayonnements ultraviolets qui proviennent du Soleil.
Oui. Hein,
parce que la Lune et d'autres planètes telluriques, comme Mercure par exemple, ne possèdent pas d'atmosphère. Donc ça fait que la matière, la poussière météorique, elle est soumise à ces fameux rayonnements donc ultraviolets qui proviennent du Soleil. Et là, vous avez la matière qui a tendance à se charger électriquement.
Mmh.
Et à avoir ainsi aussi un pouvoir réfléchissant qui va être beaucoup plus important.
D'accord.
Alors ça a été un problème notamment par rapport à la mission Apollo, quand les astronautes sont partis sur la Lune. Eh bien, ils étaient particulièrement gênés justement par la régolithe, cette poussière qui a tendance à adhérer facilement, non seulement sur les vêtements, mais sur tous les dispositifs, notamment du LEM lunaire. Et ça a même créé des problèmes de dépressurisation.
Et oui, parce qu'ils ont failli ne pas revenir.
Bon, ça, c'est encore une autre histoire. C'est particulièrement gênant parce que c'est de la matière qui est chargée sur le plan de vue électrique et qui a tendance, grâce aux forces électrostatiques, à adhérer facilement sur la matière.
Oui.
Voilà. Et les couches de régolithe sur la Lune, ça peut atteindre plusieurs dizaines de mètres. Hein. Il y a des régions où vous avez même plus de 50 mètres de régolithe au niveau de la surface.
Oui, il ne faut pas s'y aventurer.
C'est très... Ah, même, par contre, ça recouvre donc la totalité de la surface.
C'est dense quand on y marche ou c'est mou et on peut s'enfoncer?
C'est en quelque sorte de la poureuse dans laquelle justement on peut s'enfoncer facilement. Ouais.
Donc il faut être prudent si on y va.
Tout à fait. Et ça a été, je dirais, une surprise pour les astronautes quand ils étaient partis justement sur la Lune.
Mm-hmm.
Mais bon, c'est riche d'enseignements. Parce que si on doit y retourner, eh bien, on prendra d'autres mesures.
Oui. Des fois, justement, la Lune, et il n'y a pas si longtemps, ces jours-ci, elle était en premier croissant et elle était plutôt rougeâtre.
Après, si vous avez votre Lune qui a tendance à être basse sur l'horizon, eh bien, là, on a donc ces phénomènes d'optique qui permettent de pouvoir, sur le plan du vue, là, je vais dire...
Oui.
Esthétique,
oui,
si j'ose dire,
oui.
De voir la Lune d'une certaine couleur.
Mm-hmm.
Tout à fait, mais cette couleur orange à l'horizon, elle aura tendance à diminuer à fur et à mesure que la Lune culminera dans le ciel.
D'accord. Bien, ben voilà, on en sait un petit peu plus sur tout ce qui nous entoure dans notre ciel. On va passer maintenant à votre travail proprement dit, c'est-à-dire aux Pléiades à la Trappe. Le 10 août, il y a la vie et la mort des galaxies. C'est une conférence de Fabrice Lamareille.
Oui, tout à fait. Donc Fabrice Lamareille aura le plaisir de dispenser donc cette conférence sur les galaxies. Ça aura lieu à 21h au balcon des étoiles. Vous en saurez un peu plus sur ce qu'est une galaxie.
Oui.
Une galaxie qui est en fait un amas d'étoiles. Mais il existe différentes sortes de galaxies.
Alors, le 4 et le 5 août, c'est comme chaque année, c'est la manifestation nationale La Nuit des Étoiles. C'est à partir de 21h de lieu. Un à Muret pour le 4 août et ça sera au domaine des Brioudes. Et le 5 août à la Trappe, là aussi, on va voir les étoiles filantes, s'il n'y a pas de nuages.
S'il n'y a pas de nuages, tout à fait. Hein. C'est quand même intéressant de participer à cette nuit ou ces nuits qui sont des nuits nationales, hein, c'est-à-dire dans les quatre coins de France, pendant ces deux jours, enfin ces deux nuits, il y aura des observations qui seront organisées à l'œil nu et au télescope, bien entendu. Hein. Donc, il y a énormément de sites en France.
Oui,
bon, généralement, il y a des regroupements en fait qui sont organisés.
Oui.
Qui aura bien sûr la présence des médias également, comme France Télévisions, pour participer à ces événements. Et généralement, il y a des conférenciers de renom, comme Hubert Reeves, par exemple, qui participent, qui parrainent justement ces soirées-là. des soirées qui sont aussi organisées par l'Association française d'astronomie.
Oui. Également. Le 13 août, Perséide.
13 août, oui, des étoiles filantes qu'on appelle des Perséides, hein, parce qu'on donne des noms aux étoiles filantes en fonction de leur provenance dans le ciel.
Oui.
Et là, en l'occurrence, donc, les Perséides proviennent de la constellation de Persée.
Hein. Oui.
Alors, je rappelle qu'une étoile filante, ce sont des résidus cométaires qui sont soumis à l'attraction terrestre. Et en pénétrant dans l'atmosphère, eh bien, on a ces fameuses traînées dans le ciel. Et là, il faut en profiter pour faire un petit vœu également. Mais c'est justement donc, le 13 août, hein, et plus précisément à 3h37, hein, comme quoi c'est précis en temps local, hein, 3h37 du matin. Hein, donc là, c'est vraiment pour les plus courageux.
Oui.
Où on aura le maximum de Perséides.
Okay.
Donc là, il faut en profiter parce qu'il y aura une absence totale de la Lune.
Impeccable pour les voir.
On croise les doigts parce qu'on est toujours tributaire des conditions météorologiques.
Okay.
Et on espère que le temps sera au beau fixe sur cette période-là.
Oui.
Et justement, donc, c'est le 13 août, c'est là où la Terre... rentre justement en interaction, si j'ose dire, avec ces poussières laissées par une comète et qui sont soumises à l'attraction terrestre. Et c'est pour ça que nous voyons donc ces fameuses étoiles filantes.
C'est quand elles rentrent dans l'atmosphère terrestre qu'elles s'enflamment quelque part ?
Voilà, tout à fait. Exactement, c'est les forces, notamment les forces de frottement qui s'exercent justement sur ces poussières-là lors des entrées, qui génèrent justement toutes ces traînées lumineuses dans le ciel.
Quand elles sont enflammées, elles restent en cendres,
Alors elles se désintègrent soit totalement, et pour les corps vraiment les plus importants, eh bien là il y a une fragmentation en fait du noyau. Avec un petit peu de chance, on pourrait récupérer des résidus au niveau de la surface terrestre.
D'accord. Donc ça va tomber sur la Terre.
Voilà, ça tombe sur la Terre, mais là, pour des morceaux qui sont relativement importants.
Alors, c'est quoi relativement important ?
C'est au niveau des résidus qu'on peut récupérer au niveau de la surface, eh bien ça peut être des résidus qui font des cailloux qui font quelques centimètres de diamètre.
Hein. Ah oui, c'est pas gros.
Oui. Donc ça peut être 10, 20, 30, après bon c'est très variable. Quoi.
Oui, la nuit du 14 août c'est pareil, c'est la nuit de la belle étoile, ça sera la continuité ou pas ?
Alors ça c'est un produit pur observatoire de la Trappe, aux Pléiades, qu'on a créé justement cette nuit qui commencera à 19h et qui se finira à 9h du matin.
Oula.
Voilà. Vous aurez la possibilité de pouvoir pique-niquer sur place, de pouvoir observer toute la nuit avec les instruments. Et là, j'en profite pour préciser que le village de La Trappe a obtenu un label de village étoilé, qui est un label donc national, et qui est attribué à toutes les villes ou villages qui font un effort de réduire leur intensité lumineuse, justement pour observer les astres dans les meilleures conditions possibles.
Oui.
Voilà. La mairie de La Trappe et nous autres, nous attendons impatiemment que ces fameux panneaux de village étoilé donc, soient installés par le CIVOM de Rieux qui gère donc, l'installation de ces pancartes à l'entrée du village de La Trappe.
Oui, et en tout cas, merci justement au conseil municipal de La Trappe d'avoir pris cette initiative parce que c'est important finalement de voir le ciel et, puisque le ciel de tout temps a été le repère des voyageurs.
Oui, tout à fait, hein, depuis l'Antiquité.
C'était le GPS de l'Antiquité.
Oui. Vous parlez de GPS, mais on va quand même évoluer. À l'heure actuelle, on est toujours dans le système américain.
Mm-hmm.
Hein, et nous allons progressivement évoluer vers le système Galileo, qui est en fait le GPS européen. Donc c'est un projet qui a pris un peu de retard, mais qui verra le jour... On espère d'ici 2020. Là, on aura affaire à des appareils qui seront beaucoup plus précis que le GPS américain à l'heure actuelle.
Parfait. Les Pléiades de la Trappe, c'est une association. Téléphone à nous donner peut-être ?
Oui, 05 62 23 21 13. 05 62 23 21 13. Donc ça, c'est le numéro de l'Observatoire de la Trappe.
Oh oui.
Pour obtenir plein d'informations. Et vous avez également un site internet. Bon, l'adresse est un petit peu compliquée. Hein. C'est www.les-pléiades.asso.fr. Le plus simple, c'est de mettre Balcon des Étoiles dans le moteur de recherche de Google.
Oui.
Vous aurez un accès très rapide sur tout le programme, les activités de l'Observatoire de la Trappe.
Et si on fait les Pléiades de la Trappe, on y va également.
Également.
Mais merci beaucoup, Denis, encore une fois, de nous avoir intéressés à ce ciel qui fait poser toujours beaucoup de questions, puisqu'il est très loin et qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, ou en tout cas à l'intérieur de ce ciel. Le mois prochain, on se retrouvera pour parler aussi encore du ciel et des étoiles inlassablement, parce qu'il y a tellement à savoir.
Oui, ça sera avec un grand plaisir.
Merci, à bientôt.
Je vous remercie. Merci à tous et à toutes.